Chapitre 5. Ce ne fut cependant pas une brouille. On affecta de part et d'autre de ne donner aucune suite à l'incident. Grand-mère vint à Beaumont dès qu'elle apprit que mon père était souffrant. Il dormait, on ne l'éveilla point. Elle resta en bas avec petite maman, et cette fois, les deux femmes causèrent sans se disputer, parce que M. Clérambourg faisait les frais de l'entretien. Grand-mère le détestait dès le temps même que vivait sa fille, car déjà, il accaparait mon père, l'influençait en tous ses actes, et sa première femme, comme la seconde, en était jalouse. Toutefois, petite maman recommanda à grand-mère, quand elle verrait son gendre, de ne pas dire de mal de Clérambourg, car il ne pouvait souffrir qu'on l'attaquât. « Votre mari a bon cœur, malgré tous ses défauts, et il reste fidèle à ses amis. Je suis sûre qu'il n'en veut à personne. » « Je n'en sais rien, mais il est difficile de ne pas garder rancune à des gens qui nous traitent comme on le fait. »« Il n'en veut à personne, » répéta grand-mère, « et c'est par là que tout s'arrangera. »« Eh, grand Dieu, que voulez-vous qui s'arrange au point où les choses en sont ?»« Je n'en sais rien, mais tout s'arrangera, croyez-moi. Je suis une vieille bonne femme et j'en ai vu ma vie durant de toutes les couleurs. Vous pouvez vous en rapporter à moi. » Elles faillirent s'embrasser. Grand-mère revint quelques jours après. Quand on l'annonça, petite maman dit à son mari « Laisse-la entrer, elle te remontera, je t'assure. Elle a beaucoup de bon sens, la bonne femme. » La bonne femme entra. Elle ne fit point allusion à la conduite de Clérambourg. Elle traita l'indisposition de son gendre comme si c'eût été une bronchite. Elle parla des maladies de l'hiver et des malades de la campagne. « Notre pauvre ami Troufflot a fort à faire, » dit petite maman. « Il aura moins à faire, » dit grand-mère. « Comment cela ?»« Mais quand l'autre médecin va être installé. »« Quel autre médecin ?»« Vous ne savez donc rien ? Il est arrivé ce matin sans tambour ni trompette, il est vrai. Moi, j'ai appris cela en entrant en ville. » Il est descendu à l'hôtel. Mais où logera-t-il? On dit qu'il a loué la maison du père Pichard. La maison du père Pichard? S'écria mon père. Ainsi on se tenait à quatre pour ne pas parler de Clérambourg, et sous les événements du jour, la main de Clérambourg se révélait. Le rival du docteur Troufflot, appelé à Beaumont par les Plancoulaines, évidemment, sinon par Clérambourg lui-même, accourait se loger dans la maison toute chaude encore du feu père Pichard, dans une maison qui appartenait à Clérambourg. Ah, les choses avaient été menées rondement. Peut-être Clérambourg n'eût-il pas osé faire cela avant la rupture avec mon père. Mais la rupture accomplie, il n'y avait eu, semble-t-il, qu'un télégramme à expédier pour que la combinaison préparée de longue date aboutît. La tête sur l'oreiller, les yeux au ciel de lit, le malade voyait se dérouler ce cauchemar. Il dit seulement « Et comment se nomme ce médecin ?»« Le docteur Cheval... Cavalier... Chevalier... Non, attendez donc, quel nom m'a-t-on dit ?»« Le docteur Chevalière, c'est ça !»« Chevalière, Chevalière, j'ai entendu ce nom-là quelque part. » « Chevalière, dit la petite maman, j'ai dansé, étant jeune fille, à Paris, avec des chevalières qui faisaient leur médecine. Mais oui, il y avait un jeune chevalière qui apprenait le Boston à Marguerite Charmaison. « Ça y est, dit mon père. « Allons, allons, dit grand-mère, ne vous montez donc pas la tête. »«
Je ne me monte pas la tête. »
Grand-mère poussa un soupir.
« Voyons, dit-elle, cela ne peut pourtant pas durer. »
Qu'est-ce qui ne peut pas durer?
Mais l'état où vous êtes vis-à-vis de la ville.
Ah, j'espère que vous n'allez pas reprendre l'antienne. Vous ne venez pas, je suppose, me proposer d'aller transiger avec Pancoulaine au sujet de la maison Colliveau.
Il s'agit bien de la maison Colliveau à l'heure actuelle. Il y a beau temps que M. Pancoulaine y a renoncé. Il fait bâtir pour son neveu Moche.
Je le sais. Alors d'où provient la rage persistante de ces gens-là? Comptent-ils contre nous?
Grand-mère hésita. Une réponse lui chatouillait les lèvres.
Elle soupira encore.
« Ah oui !» dit mon père avec une grimace de dégoût. « Les calomnies, les saletés. Est-ce que vous allez, vous aussi, y penser ?»«
Je crois qu'on ne parle plus de cela, » dit grand-mère. « On a si vite fait d'épuiser un sujet de conversation. »
« Pourquoi m'en veulent-ils ? »
Elle se recueillit un court instant, puis lâcha.
« Ils vous en veulent de les bouder. »
Mon père fut suffoqué. Sa femme sursauta. Grand-mère ne s'émut pas. Elle consolidait son dire par de petits signes de tête affirmatifs. C'est qu'elle était une vieille bonne femme, elle en avait vu de toutes les couleurs et elle connaissait les hommes. Elle dit « N'allez pas croire que ces gens-là s'imaginent qu'ils vous ont causé injustement préjudice. Plancoulen n'a jamais cessé d'avoir foi en son bon droit. Son bon droit, mais c'était son désir de posséder la maison Colliveau, comme votre bon droit, à vous, était aussi le désir de la posséder. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Tout le monde est ainsi fait. Vous l'avez frustré, il est entré dans une colère de tigre. » La ville, étant à ses genoux, s'est empressée de le flatter en se liguant contre vous. Sa femme, avec la plus grande inconscience du monde, vous aurait haché menu comme chair à pâté, croyant bien agir puisqu'elle servait son mari. Ah, vous aurez beau lever les bras, je vous affirme que les choses ne se passent pas autrement. Dans leurs rapports avec vous, mais mes bons amis, ces gens-là sont dans la situation de parents qui ont administré une raclée à un enfant coupable d'un mauvais coup. Que le petit s'avise de faire la moue 24 heures, on recogne dessus pour lui apprendre à bouder. Vous les boudez, ils vous reprochent de les bouder.
Ha ha ha, ricana mon père, elle est bien bonne.
Non, non, en vérité, elle est bien bonne.
Non, mais nous voyez-vous, ma femme et moi, et mon enfant aussi, et vous aussi, sans doute, et votre mari, toute la famille, quoi. Nous rendant chez les Plancoulen et faisant risette à monsieur, à madame, à mon excellent confrère Courtois et à toute la séquelle des pieds plats qui nous ont traînés dans la boue, qui m'ont ruiné, qui m'ont arraché une à une mes amitiés jusqu'à la dernière.
« Tout se tasse, » dit grand-mère.
« Ah ça, » fit mon père, « est-ce que vous vous moquez de nous ?»
Il se souleva à demi sur son lit et sa figure était effrayante.
« Plutôt que de faire cela, dit-il, plutôt que de faire cela, madame, j'aimerais mieux m'affilier à la bande des Cincinnatus, des Phébus et de tous les us de la République, entendez-vous bien. Oui, certes, j'aimerais mieux cette extrémité. »
Grand-mère se leva.
« Calmez-vous, dit-elle, je vois que la poire n'est pas encore mûre. Mais tout s'arrangera, tôt ou tard, j'en suis bien certaine. »
Le malade en fut irrité toute la soirée. Il s'apostrophait lui-même pour n'avoir pas rompu avec sa belle-mère définitivement.
« Oui, oui, définitivement, disait-il. Cette bonne femme, avec sa prétendue sagesse, ne fera jamais que rendre la situation plus exaspérante. »
Il se rappelait ses paroles lors de l'achat de la maison Colliveau. Elle avait prédit à peu près tout ce qui était arrivé. Et il en était agacé davantage.